Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Sarah est née sans bras. Aucune explication particulière à cela, rien de génétique. Ses membres supérieurs ne se sont tout simplement pas développés in utero. Alors dès bébé, c'est naturellement qu'elle se sert de ses pieds comme d'autres se servent de leurs mains, pour s'éveiller et toucher les objets. Elle grandit en Belgique, où son handicap ne l'a jamais freinée pour quoi que ce soit. Sarah se passionne d'ailleurs de cuisine et se révèle même être artiste peintre. Devenir maman à son tour était une évidence et Sarah ne s'est pas posé de questions. La grossesse est arrivée assez vite et s'est passée dans la douceur jusqu'aux 6 mois, où là Sarah a commencé à avoir un peu plus de mal à faire usage de ses pieds et a dû donc se mettre sur pause. Elle aura un accouchement par césarienne à cause de son placenta previa, bien entourée par une équipe impressionnée par son agilité et sa détermination. Sarah rencontre sa fille et va alors, comme elle l'a toujours fait, adapter son handicap à son nouveau rôle de maman. Trouver la position pour pouvoir allaiter, découvrir ses limites et, comme toutes les mamans, faire en fonction de l'évolution de son enfant. Bonne écoute.
Bonjour Sarah.
Bonjour Shane.
Merci de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Merci à toi de m'avoir invitée.
Avec grand plaisir. Alors, toi, Sarah, tu as une petite fille. Quel âge elle a ?
Alors, ma petite fille a 3 ans.
Ouais. On va revenir un petit peu en arrière. Toi, tu as une particularité puisque tu es née sans tes bras, enfin sans bras. Est-ce que tu sais, est-ce que vous avez su avec ta maman d'où venait le fait que tu n'aies pas développé ces membres de ton corps ?
Non, non. La médecine n'a jamais su répondre à cette question. Donc, c'est tout simplement une anomalie congénitale. C'est l'embryon les caprices de la nature en fait, le processus de développement de l'embryon ne se fait pas comme tous les autres embryons.
Oui.
Tout simplement. Enfin, tout simplement. Oui, j'ai envie de dire tout simplement. Mais non, c'est vraiment l'explication qu'on a. Il n'y a pas, en tout cas, d'éléments externes qui a lieu durant la grossesse, et c'est inexplicable. Donc, c'est pas génétique, en tout cas.
D'accord.
Parce que dans ma famille, il n'y a personne qui n'a pas de bras, et ma fille a des bras, donc voilà.
Et est-ce que tu sais si ta maman l'a su pendant la grossesse ou à l'accouchement ?
Oui, non, elle l'a su pendant la grossesse, oui. Mes parents sont très croyants, spirituels, donc voilà, pour eux, ça restait une vie de Dieu, donc ils n'ont pas du tout pensé... C'est un peu délicat, je trouve, de parler de ça en tant que personne concernée, parce que de dire oui, pourquoi ils t'ont pas avorté quelque part ? Non, c'est comme ça. C'était une vie qui valait les vécu.
Oui. Alors, comment s'est passé toi ton enfance ? T'as du coup toujours vécu comme ça. T'as développé rapidement. J'imagine d'autres façons de faire.
Je suis née comme ça, donc pour moi c'est. C'était comme ça et pas autrement. J'ai envie de dire, moi, je ne sais pas ce que c'est d'avoir des bras.
Oui.
J'ai pas eu un accident, j'ai pas été amputée. Donc, pour moi, ma construction s'est faite d'emblée de cette manière. Et quand j'étais bébé, mon cerveau s'est connecté à mes pieds.
D'accord.
Pour chipoter un peu à tout, pas comme les bébés font. C'est-à-dire mettre tout en bouche, aller mettre ses doigts dans les prises, tout ça... C'était fait avec les pieds. Puis mes parents se sont rendus compte que j'utilisais vraiment énormément mes pieds. Et donc, ils m'ont laissé, en fait, développer tout ça. Ils ont été un peu spectateurs de ça. Et puis, ils se sont rendus compte qu'en fait, très vite, je prenais les choses avec les pieds. Par exemple, le biberon, voilà, je le faisais avec le pied. On connaît tous la souplesse incroyable des bébés. Ben, moi, c'est une souplesse que je n'ai jamais perdue.
D'accord. Et alors, comment ça s'est passé au niveau de ton éducation scolaire? Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières? Est-ce que tu es allée dans des institutions particulières?
Non. Ici, j'ai eu vraiment un parcours de vie tout à fait normal. J'ai été scolarisée quand j'étais en maternelle dans un enseignement spécialisé. Alors, quand on dit spécialisé, c'est-à-dire que il y avait juste des kinés, des ergothérapeutes qui venaient un peu en classe pour voir si on était bien installé, si tout allait bien. Mais c'était dans un enseignement normal. Mmh. Et parce qu'il n'existe pas vraiment de structure, en tout cas en Belgique, à l'époque, bien évidemment, parce que je ne sais pas aujourd'hui comment c'est, mais pour enfants handicapés physiques. Il existe des structures pour enfants handicapés mentaux, donc autisme, etc., mais pas physique. Et puis mes parents voulaient surtout pas que je sois ghettoisée. Ils voulaient absolument que j'aille dans les mêmes écoles que tous les autres enfants. Je suis l'aînée de la famille, donc après, quand mon frère est arrivé juste après, mes parents voulaient absolument qu'on aille ensemble à l'école, comme toute une fratrie. Et c'est ce qui s'est passé. Donc après, avec mes frères, on a été dans la même école. Et j'ai grandi avec des enfants. Les enfants, en fait, pour eux, tout est normal. Hein. Mm-hmm. En fait, c'est quand on devient adulte que les choses ne sont plus vraiment normales. Mais tous les enfants avec qui j'ai grandi, pour eux, j'étais juste, il y avait juste une différence. Mais c'était tellement acquis, voilà, Sarah, elle n'a pas de bras. Voilà, c'est... Oui. Et j'ai jamais eu le sentiment d'avoir eu une vie spéciale ou différente. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que, comme c'était normal pour tout le monde, c'était normal pour moi aussi. Ou peut-être que c'était normal pour moi et donc c'était normal pour tout le monde. Je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas, ça s'est fait certainement dans les deux sens.
Oui. Toi, tu n'avais pas besoin de suivi particulier en plus, tu n'as pas de soins ou quoi que ce soit?
Non, parce que comme j'ai tout adapté, en fait, je dis souvent, souvent quand les gens viennent chez moi, ils me disent, mais en fait, il n'y a rien qui est adapté chez toi. Sinon, c'est moi qui m'adapte. C'est pas le monde qui s'adapte à moi, c'est moi qui m'adapte au monde.
Alors, quel regard tu portais sur la maternité, toi, avant de devenir maman? Est-ce que tu t'es toujours dit, je deviendrai maman à mon tour ou pas du tout?
Si, j'ai toujours voulu devenir maman. Parce que j'ai eu la chance, déjà j'ai eu une grand-mère qui m'a beaucoup inspirée.
Ouais.
Je crois qu'on a, on a toutes comme ça une figure maternelle dans notre vie qui fait qu'à un moment donné on s'identifie. Et tout l'amour que j'ai reçu, j'avais très envie de le donner. Et c'est vrai que pour moi c'était vraiment une question d'amour. Toute la partie logistique, j'y pensais pas du tout. Ouais. En fait, je ne pensais pas du tout. C'est à mon cinquième mois de grossesse que je me suis rendu compte, ah mais en fait, je ne vois plus mes orteils. J'aurais dû y penser avant. c'est vraiment... Mais c'est vrai que l'idée de devenir maman, pour moi, mon handicap n'était pas une barrière, comme ça ne l'a jamais été dans beaucoup de projets. Il y a toujours eu une adaptation. Mais mon handicap ne m'a jamais empêché de faire plein de choses. Je suis artiste peintre, par exemple. On pourrait se dire comment c'est possible d'être artiste peintre sans bras, mais si, en fait, juste j'adapte. J'adore cuisiner. C'est vraiment une passion. J'adore la pâtisserie. Et juste, je m'adapte.
Ouais. Et alors, comment ça s'est passé? À quel moment t'as décidé de devenir mère?
Donc, j'étais en couple depuis déjà pas mal de temps. Et donc pour le papa de Livia, lui, pareil, il ne voyait pas du tout... en fait, il oublie parfois même que je n'ai pas de bras. Parce qu'au quotidien, voilà, c'est tellement acquis, c'est tellement... je vis tellement comme ça que tout devient normal. Et voilà, donc on a décidé de mettre le projet bébé en route. Et Livia est très vite arrivée. Donc voilà, c'était dès qu'on a décidé de la mettre en route, en tout cas. Et puis les premiers mois de grossesse se sont très bien passés. C'est à partir du 6e mois de grossesse où là, c'est vrai que je pouvais plus trop, par rapport à mon handicap, je pouvais plus trop utiliser mes jambes, ni ben, la souplesse. On sait que la sciatique, pour les femmes enceintes,
eh oui.
Moi, j'avais vraiment envie aussi de préserver mon bébé, de lui éviter d'être dans un corps de contorsionniste.
Est-ce que tu avais peur justement de ne pas garder cette souplesse? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit
Mais c'était même pas ne pas la garder, c'était... Je voulais pas, en fait. Je ne voulais plus utiliser mes pieds à partir du 7e mois.
D'accord.
Donc, alors, il faut savoir aussi que... donc, j'ai eu quelques petites complications parce que j'avais un placenta prévia. Donc, j'ai dû rester couchée. Quand on a un placenta prévia, on doit rester couchée pendant quelques semaines pour essayer de le faire remonter. Et de toute façon, voilà, je me disais, je veux pas mettre mon bébé à mal. Enfin, il y avait quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, la grossesse, c'était vraiment la première fois. Et j'avais pas du tout envie qu'on me dise, attention, elle est recroquevillée parce que vous-même, je sais pas. J'utilisais plus mes pieds.
Alors, comment tu faisais au quotidien
Je me faisais beaucoup aider.
Ouais.
Le 7e mois, 8e mois, je me faisais aider. Et puis après, Lila est arrivée. Donc voilà, j'ai pu récupérer mes pieds. Mais je pense que oui, il y a des sacrifices. Enfin, moi, j'ai eu plus ou moins 2 mois où je me faisais complètement aider par le papa.
Ouais. Est-ce que tu avais fait une préparation particulière à l'accouchement? Est-ce que tu t'étais renseignée sur tout ça ou pas du tout?
En fait, je m'étais renseignée sur un accouchement par voie basse, mais comme j'ai eu une césarienne, la surprise de la césarienne, ça, je m'étais pas du tout... Enfin, je m'étais renseignée 48 heures avant qu'on me dise c'était une césarienne, quoi.
Et pourquoi c'était une césarienne?
Parce que j'avais un placenta qui n'y
avait pas rentré, finalement. Ah oui, d'accord.
Et du coup... Mais ça s'est très bien passé parce que j'étais vraiment dans un hôpital où on a vraiment mis une très grande attention sur moi et avec une équipe super, avec un super gynécologue aussi. Et vraiment, je me suis sentie très très bien accompagnée. Donc, c'était des gens qui connaissaient bien leur métier et qui donnaient une particularité, enfin une attention particulière à ma différence. Donc, je me sentais très bien, en fait. Je me sentais entre de bonnes mains. Et puis quand Lilia est arrivée, on m'a aussi permis de... En fait, quand Lilia est arrivée, elle est arrivée à 8 mois et une semaine, ce qui est un enfant complètement à terme, hein, quasiment. Et donc, on l'a gardée une semaine en néonat.
Ah oui.
Et moi, donc, on m'a permis aussi d'aller avec Lilia... en chambre, donc en néonat. Ça, c'était super, je trouve, de mettre tous ces arrangements possibles. Et donc, j'ai vraiment pu avoir plein de sages-femmes autour de moi qui venaient vraiment m'aider pour les premiers soins. Bon, bien sûr, il y avait le papa, mais bon, ouais, c'est nouveau pour tout le monde. Donc, et donc, j'avais vraiment cette espèce de petit monde comme ça autour de moi qui m'aidait, et eux-mêmes, ils se disaient, en fait, c'est vrai, quand on a su que vous n'aviez pas de bras, on se disait, mais comment on va faire? Ça va être compliqué, mais en fait, vous savez tellement tout faire que...
Ouais.
Voilà, on est juste là, si vous en avez besoin, mais à la limite, puis moi, je l'allaitais, donc, je la mettais dans une sorte de petit coussin, et je me mettais en position du lotus, et puis, je la mettais vraiment, c'était très simple, quoi. On a très vite trouvé nos marques, très vite, j'exagère, peut-être 3 semaines, 1 mois, pour vraiment trouver nos marques. Et à la limite, c'était reposant d'être à l'hôpital, puisque du coup, il y avait tellement de personnes autour de moi. Et après aussi, quand on a dû rentrer à la maison, voilà, c'était l'aventure qui commençait.
Ouais. Est-ce que tu t'es tout de suite sentie à l'aise dans ton nouveau rôle de maman?
Alors, vu que j'ai eu une césarienne, et que quand. Alors, je ne sais pas si. Enfin, les césariennes, aujourd'hui, on doit quand même très vite se remettre debout et très vite faire comme si rien n'était. Donc, ça, je trouve ça un peu difficile. cette manière d'appréhender les, c'est quand même une opération assez lourde. On est éventré, hein. Faut utiliser les mots comme ils sont, hein. Moi, je me rappelle avoir dit à mon gynécologue, j'ai mal, j'ai l'impression que j'ai eu un coup de couteau dans le ventre. Et il m'a regardé, il m'a dit, oui, c'est tout à fait ça.
Ouais.
Ah ouais, j'ai dit, ok, merci pour l'aspect psychologique. Voilà, j'ai dit, donc c'est normal la douleur. Oui, c'est un coup de couteau dans le ventre. Oui, c'est ça. Bon. En plus, moi, j'avais refusé de prendre tout ce qui est, comment on appelle ça encore?
Les antidouleurs
hein. Oui, mais c'est même pas les antidouleurs, c'est la morphine. Parce qu'on peut donner de la morphine. Moi, j'avais pas du tout envie. On m'a dit, mais tu vas avoir très mal, hein. Enfin, vous allez avoir très mal, on vous conseille vraiment de le prendre. Et non, j'avais pas envie, j'ai lutté et j'ai regretté.
Ouais.
Que les antidouleurs, mais c'était horrible. Donc, c'est vrai que les 3-4 premiers jours, j'étais un peu dans les vapes. Je luttais contre la douleur, j'avais vraiment très mal. Puis bon, il y a ce rôle de maman là qui arrive tout d'un coup. Mais il faut dire que le papa de Lilia est vraiment pour ça. Lui, il était en osmose avec sa fille.
Ouais.
Donc voilà, donc ça a été 2-3 jours d'extrême fatigue. Et puis après, une fois que les grosses douleurs post-césarienne passent, vu que on me mettait Lilia sur mon ventre, en fait, là où il y a la cicatrice, on la portait. Donc, c'était un peu difficile la toute première semaine. Et moi, je voulais allaiter en plus. Donc, mais c'est une question d'adaptation. Il faut juste trouver son rythme, réapprendre à utiliser son corps. Et puis voilà, et puis après, les choses se sont faites d'elles-mêmes. Moi, j'ai voulu faire du cododo aussi très vite, donc je me rattrapais aussi.
Et alors, comment t'as fait justement pour trouver tes marques? Est-ce que t'avais étudié les choses avant, en te disant, bon, bah, si j'allaite, je vais faire comme si, je vais me positionner comme ça?
Non, c'est vraiment instinctif. C'est vraiment comme quand j'étais moi-même bébé, c'est-à-dire que ça passait pas par la case réflexion. C'était vraiment de l'instinct et de l'intuition pure. Et je pense que c'est vraiment comme ça que mon handicap, c'est comme ça que je le vis en tout cas. C'est toujours très instinctif et très naturel. Et je pense qu'on se prépare jamais assez en plus. Quand on devient maman, on a beau se dire « je vais faire ça comme ça, je vais faire ça comme ci ». En fait, quand on est face à la situation, il y a plein d'éléments auxquels on n'a pas du tout pensé. Et puis, non, les choses se sont vraiment faites naturellement. Déjà, je ne savais même pas que j'allais allaiter, parce que je n'étais pas sûre d'avoir une remontée de lait. Parce que bon, c'est bien beau de vouloir allaiter, mais ce n'est pas toujours possible. Et donc je me disais, jusqu'au bout, peut-être que ce ne sera pas possible. Et ben, comme c'était possible, voilà, j'étais très contente. Mais c'était plus facile pour moi d'ailleurs d'allaiter que de donner le biberon.
Ah oui.
Ah oui, parce que du coup, je pouvais mettre Lilia même couchée, parce qu'il y a des positions aussi pour l'allaitement. On peut se mettre, par exemple, couchée sur le côté et mettre son enfant aussi couché sur le côté. Donc se mettre l'une en face de l'autre, en fait. Et c'est plus facile pour moi de l'allaiter que de tenir un biberon.
Ah oui. Et alors, comment tu faisais logistiquement parlant pour... je sais pas, tu as eu un congé mat où tu étais peut-être toute seule avec ton bébé. Comment tu gérais...
Non. Ça, par contre, on avait vraiment mis en place. On avait complètement aménagé notre vie entière, ne serait-ce que la première année, pour que le papa de Lilia soit présent. Donc lui, du coup, il a eu vraiment une paternité à du 200%. Oui, non. Ça, avant même le projet bébé, je pense que ça aurait été inconscient de se dire « je devrais tout faire toute seule » ou alors j'aurais engagé une tierce personne. Mais il faut connaître ses limites et savoir qu'il y a des choses... Bon, déjà, on est humain, donc on a la fatigue, surtout les premiers mois. C'est très, très, très fatigant. Là, non, je suis pas seule, quoi. Je ne vis pas seule. on a vraiment, c'est un projet à deux réfléchi et le papa donc était, quand moi je pouvais pas faire les choses, bah c'était le papa qui prenait la relève et puis voilà. Il y a des choses pour lesquelles j'ai dû aussi faire des entre guillemets des deuils. Par exemple, j'ai toujours eu très peur de prendre le bain à ma fille. Quand un nourrisson c'est tellement tout petit et là par contre j'ai dit non, là je peux pas parce que là il y a pas de je vais essayer.
Oui.
Là c'est on n'a pas droit à l'erreur. Et j'avais très très peur qu'elle glisse. J'avais très très peur de. Enfin voilà, je ne vais pas donner tous les phobies du bain de l'enfant et les conséquences qu'il peut y avoir, mais c'était assez. C'était inenvisageable pour moi d'essayer, parce qu'il n'y a pas d'essai possible face à ce genre de situation. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait le bain de Lydia à deux. Donc c'était son papa qui la tenait. Surtout quand ils sont nourrissons comme ça, c'est tout petit. Lui-même, il me disait, moi-même avec mes mains, j'ai peur qu'elle glisse, j'ai peur. C'est très stressant. Et puis surtout quand après, ils ont 3-4 mois, ils aiment bien bouger dans tous les sens. C'est assez imprévisible en fait. Et je pense que pour ça, il faut vraiment aussi... moi, je voulais... me rendre à l'évidence et me dire, ok, ton petit ego, tu le mets de côté. C'est super, tu veux tout faire, c'est magnifique, mais non, là non. Puis il y a d'autres choses que je ne savais pas faire. C'est par exemple l'enlever de son landau, l'enlever de son berceau. C'était pas possible. Là aujourd'hui, elle me saute dessus, sur mon dos, etc. Mais quand elle était nourrisson, c'était pas possible de faire ça. Donc il fallait aussi passer par des moments très très difficiles. Où je me disais, ça ne sera pas possible, mais tu feras d'autres choses avec elle. Je faisais du cododo, par exemple, parce que pour moi, c'était une manière de l'avoir près de moi et de rattraper tous ces moments perdus de la journée où je ne pouvais pas interagir avec elle.
Et ça a été simple pour que ton conjoint puisse prendre un congé paternité ?
Alors, il n'a pas dû prendre de congé parce qu'il travaille à la maison. Donc ça c'était, c'est donc il est freelance, donc pour ça il n'y a pas de problème.
D'accord.
Mais c'est vrai que par exemple un conjoint qui a un horaire de bureau, oui, ça aurait été très très compliqué. Là j'aurais pris une tierce personne.
Ouais.
Là oui, je pense que là dans ce cas-là, enfin il faut se rendre à l'évidence, il faut mettre un budget de côté pour engager une comment on appelle ça, une fille au pair ou quelque chose comme ça. Là, je sais que ça se fait beaucoup là en ce moment des cadeaux pour des mamans, des cadeaux de jeunes filles qui viennent même dormir à la maison pour les premières nuits.
Ouais.
Et dans les listes de naissance, je vois de plus en plus ça en guise de cadeaux. Tu as une semaine ou un week-end entier où tu as vraiment une jeune fille qui vient à la maison. Bon, il faut avoir de la place aussi pour les nuits où la maman veut se reposer.
Ouais, c'est le meilleur cadeau, je pense.
Oui, je crois que c'est le meilleur cadeau, vraiment. Et je me dis, ben voilà, moi, je me serais fait ce cadeau. En fait. Peut-être pas un week-end ou une semaine, plutôt, ne serait-ce déjà les 3 premiers mois. Parce que moi, j'ai eu la chance que Lydia, elle a fait ses nuits à 2 mois. Donc, ça, c'était assez incroyable.
Ouais.
Moi, je la réveillais. Je la réveillais. Parce que je me disais, non, elle doit s'hydrater. Donc... Et puis à la visite chez le pédiatre, je lui dis, mais en fait, elle fait ses nuits, mais elle n'a que 2 mois. Donc, ça fait 1 mois que je la réveille. Je lui dis, mais non, mais il faut pas la réveiller, il faut la laisser dormir. Vous êtes la seule maman au monde qui me dit ça. Et je lui dis, mais non, mais moi, je me réveille et tout. Pour qu'à 2 heures du mat, je la réveille. Elle me dit, mais non. Parce que pour moi, qu'elle dorme de 23 heures à 6 heures du matin, c'était trop.
Ouais.
À 2 mois. Et... Non, mais il faut la laisser dormir, pas la réveiller. Un enfant ne se laisse jamais mourir de faim, ça me rappelle, c'était sa phrase. Ouais. Si elle a faim, si elle a besoin, elle se réveillera. Et donc, du coup, je l'ai laissé dormir entre ces deux, trois mois. Et donc ça, c'est vrai que j'ai eu cette chance que c'était un bébé très facile. qui faisait ses nuits et qui était assez calme aussi. C'était un bébé vraiment très très calme. C'est toujours un enfant très calme d'ailleurs.
Ouais. Tu crois qu'elle sait que c'est plus simple pour toi du coup si elle est calme et que...
Je sais pas, parce que même quand elle dort chez mes parents ou quand elle est avec son père, c'est un enfant calme. J'ai eu une grossesse calme aussi, on vit dans un environnement assez calme, donc je pense que c'est plus lié à ça. Elle n'a pas été à la crèche, donc j'ai toujours adapté tout en fonction d'elle. Elle se réveillait alors qu'elle voulait, et les repas c'était en fonction d'elle en fait. Elle n'a jamais dû vraiment s'adapter à un monde... voilà, avec des horaires, etc. Jusqu'à maintenant, jusqu'à septembre dernier où elle a fait sa rentrée scolaire. Mais ça, je crois que ça m'a aussi beaucoup aidée. De me dire, voilà, il n'y a pas de contraintes horaires, on est cool, on est... Vu ma particularité, je pense que c'était pas du luxe, en tout cas. C'était permettre vraiment chaque jour d'aller à notre rythme.
Ouais. Et toi, c'était prévu de rester en, oui, en maman oui. au foyer
Oui, tout à fait. C'était... J'aurais pas pu, je pense, avoir un horaire 9-17, ou même 8h, hein, 8h30, hein, et avoir un enfant à côté, etc. Non, ça j'en peux plus.
Alors, comment ça se passe 3 ans 24 heures sur 24 avec son enfant.
C'est un travail à temps plein.
Ouais.
C'est vraiment un gros investissement pour. Enfin, c'est. On se rend pas compte que être maman au foyer, c'est. C'est vrai, je dis ça comme oui, on a notre rythme, etc. Mais c'est un travail H24. Voilà. C'est vrai que j'avais aussi ma maman qui prenait Lilia un jour semaine pour dormir.
D'accord.
Ça, c'est super.
Ouais.
Son papa avait... on pouvait aménager les horaires à la maison, mais pendant un an, il ne travaillait pas. Donc, il pouvait aussi être complètement disponible pour Lilia. Et c'est vrai que c'était du travail. C'est-à-dire que... Il y avait les sorties, il y avait parce que bon, rester à la maison, c'est pas possible toute la journée. Donc on faisait des promenades, et puis il fallait préparer les repas, et puis c'était la sieste, c'est très monotone. Hein. Mm-hmm. Et puis on voit pas grand monde, parce que c'est un peu l'enfant qui est au centre du monde, et puis quand on reçoit un peu de visite, mais c'est pas une vie sociale en fait. C'est du travail. Être maman au foyer, c'est un travail.
Est-ce qu'il y a eu des fois où tu t'es retrouvée dans des situations où justement le fait de ne pas avoir de bras, ça t'a empêché
Pour le bain, oui, c'est ce que je disais, oui. Pour le bain, oui, bien sûr. Faire des deuils de certains gestes qui peuvent sembler acquis, oui, bien sûr. Ouais.
Mais alors moins dans la préparation, mais sur... Des instants, en fait, je ne sais pas, par exemple, tu es au parc avec ta fille et là, il y a quelque chose.
Oui, bah, quand elle était vraiment enfant, donc en poussette, oui, bien sûr. Il y a plein de moments où je n'ai pas pu être avec elle, rien que elle, oui, bien sûr. Quand on allait se promener en poussette, il y avait toujours quelqu'un pour pousser la poussette.
Ouais. Tu n'as pas fait le porte-bébé ?
Non. Non, parce qu'avec la césarienne, la cicatrice, tout ça, non, j'avais pas... Je l'ai un peu fait... Quand elle était légère, j'allais dire, mais aussi cette phobie que ça s'ouvre et qu'elle tombe. Enfin, c'est non. Il y a des choses comme ça. Je l'ai fait un peu à la maison, mais pas dehors, par exemple.
Ouais.
Dehors, vraiment, aller me promener avec ma fille en porte-bébé, je crois que c'est pas possible. J'aurais vraiment peur que ça s'ouvre et que quand on a un porte-bébé et qu'on a des mains. Si ça s'ouvre, il y a toujours la sécurité de rattraper son enfant. Mmh. Il n'y a pas cette sécurité, donc non. Ça, c'est quelque chose que je ne voulais absolument pas dehors. J'ai juste fait un peu de porte-bébé ici à la maison. Mais quand elle était vraiment bébé. Non. Mais après, elle a très vite pris du poids et tant mieux. Ça devient très vite lourd, hein, un bébé.
Eh oui.
plus vite qu'on ne le pense. Et donc, dehors, oui, il y avait des moments où je ne pouvais pas du tout interagir avec elle. Hein. Dans la poussette, dans les promenades. Mais on s'adapte et puis, voilà, j'accepte aussi les choses. Donc, c'est comme ça. Mais ça, ce n'est pas que en tant que maman, c'est en tant que personne en situation de handicap. On est confronté à un monde où il y a des choses qu'on ne peut pas faire, et c'est comme ça.
Ouais.
Et on ne peut pas faire autrement. Et ne pas les accepter, c'est se frustrer. Donc, si on ne veut pas avoir de frustration, il faut accepter. Comme ça, c'est plus une frustration.
Et donc, toi, tu es en Belgique. Comment, justement, sont considérés, comment le handicap est pris en charge, en fait, là-bas? Est-ce que...
Moi, je ne suis pas prise en charge. Parce que j'ai mes activités, donc il n'y a absolument rien du tout. Pour les parents en situation de handicap, il n'y a rien du tout, strictement rien. Strictement rien. Donc, tout ce que j'ai dû, par exemple, j'ai pris une tierce personne quand Lilia a eu un an, justement pour faire 3 jours/semaine de balade. Il y avait strictement rien de disponible, par exemple. Est-ce qu'il y avait un budget pour les parents, un parent en situation de handicap? Non, rien du tout. Donc, c'est comme ça. Non, il n'y a pas.
On t'a jamais proposé quoi que ce soit depuis ta grossesse?
Non. J'ai demandé à la mairie, est-ce que quelque part, il y a effectivement une caisse pour les personnes handicapées et mes parents? Non, il n'y a pas. Il faut toujours avoir des conditions du type maman solo ou bien mère isolée ou des choses comme ça. Mais étant donné que moi, j'avais le papa de Lilia qui était là, on ne me considérait pas comme isolée. Étant donné que je gagne bien ma vie, on ne me considérait pas comme étant en dessous du seuil, des minima requis. Donc, je rentrais pas dans les cases... où il y avait de l'aide possible.
D'accord. Bon, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, visiblement.
Non, mais en fait, c'est tellement rare aussi. La parentalité et le handicap, c'est un cas tellement rare que je pense que nos politiques ne se sont pas penchées sur la question.
Et alors, comment se passe l'évolution avec ta petite fille, vos interactions? Toi, tu dois, j'imagine, t'adapter régulièrement en fait à l'évolution, comme tout parent, hein, finalement.
Mais ouais.
Physiquement parlant, toi, tu dois peut-être mettre en place des petites stratégies.
Oui, alors, c'est vrai que quand... c'est comme ça que je le vois, en tout cas. J'ai l'impression que Lilia, c'était un bébé et qu'elle est devenue petite fille. Mais tout de suite, quoi. C'est, tout d'un coup, entre 1 an et 3 ans, j'ai l'impression que c'est 2 personnes complètement différentes. C'est-à-dire, on a affaire à un bébé pendant très longtemps. Et puis tout d'un coup, ce bébé devient petite fille ou petit garçon. Et tout d'un coup, c'est plus un bébé, en fait.
Ouais.
Et c'est ça qui est un peu fascinant dans la maternité. C'est tout d'un coup, c'est plus un bébé. C'est vraiment un enfant qui s'affirme, qui ne veut surtout pas qu'on le considère comme un bébé, d'ailleurs. Donc... cette autonomie, moi, elle me va très bien parce que du coup, ça me permet de faire beaucoup plus de choses avec elle que quand elle était vraiment bébé. Lilia, c'est vrai que quand je l'habille, elle me dit non, mais ça, je sais faire, Et je me dis oui, mais attends, mais je vais le faire aussi pour toi. Non, je mets mes chaussettes toute seule, je mets mes baskets toute seule. Donc, elle est aussi dans une espèce d'émancipation. Mais elle est comme ça, c'est son caractère. Je ne sais pas si est-ce que c'est parce que justement j'ai un handicap et que elle s'émancipe aussi pour se dire bon ben je vais montrer à maman que je sais le faire et qu'elle doit pas. Je ne sais pas. Ça c'est le mystère. Mais en tout cas, j'ai de moins en moins d'adaptation. En tout cas, je parle vis-à-vis de mon handicap. Maintenant, en tant que maman, évidemment. Là, les adaptations, c'est tous les jours. C'est tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Puis maintenant, elle va à l'école, donc elle a aussi des liens sociaux, ce qui est pour moi assez incroyable.
Ouais.
quand j'entends ma fille me dire ma copine, une telle, pardon. mon bébé a des copines. c'est incroyable. Donc, je suis invitée à un anniversaire. Moi, je suis restée à la case bébé, cododo. Bon, voilà, mon bébé est invité à un anniversaire. Enfin, mon bébé souffle 3 bougies sur son gâteau. Enfin, c'est incroyable. Mmh. Donc, c'est que du bonheur, en fait. Je trouve qu'ils grandissent trop vite. Enfin, pour moi, elle a grandi trop vite.
Ouais.
C'est fou. Donc, voilà, les adaptations, c'est assez, assez classique. Là, quand je cuisine, maman, je peux cuisiner avec toi. On a plein d'activités qu'on ne pouvait pas faire il y a encore quelques mois et qui aujourd'hui sont possibles. Il faut savoir aussi que maintenant, quand on sort, ça fait depuis déjà quasiment un an, Lilia me tient par la manche.
Oui.
Donc, parce que ce qui est assez fascinant, en fait, c'est que quand elle me tient par la manche, elle me tient vraiment comme si je la tenais par la main.
Mm.
C'est-à-dire que... Alors, ça, maintenant, un peu moins. Mais quand elle avait 2 ans et demi, je me rappelle, elle voulait toucher des choses et elle me tirait pour me dire, maman, est-ce que je peux toucher ? Donc, ici, l'idée, c'était donc de toucher un sapin de Noël. Donc, le sapin de la ville, hein, tout le monde va le voir, les photos. Et elle voulait toucher ce sapin et elle me tire. Alors qu'en fait, elle aurait pu lâcher ma manche et aller le toucher. Mais donc, elle me tire comme si c'était moi qui la tenais. Alors que je ne la tiens absolument pas.
Incroyable.
Et ça, j'ai trouvé ça assez fascinant, en fait, de voir Lilia me tirer, me dire, maman, s'il te plaît, est-ce que je peux toucher le sapin ? Et je lui dis, non, tu ne peux pas toucher le sapin, c'est interdit. On peut juste prendre des photos, personne ne le touche, on ne peut pas le toucher. Si, maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Et elle me tire pour aller vers ce sapin. Et à un moment donné, je me dis, pourquoi elle ne lâche pas ma manche, en fait ? Et elle irait courir à aller toucher ce sapin. Non, parce que dans sa tête, c'est maman qui la tient. Ça, c'était assez incroyable comme expérience.
Ouais. Et c'est elle, naturellement, qui t'a pris par la manche au tout début ?
Non, au tout début, c'est moi qui lui disais « Tu tiens maman. » Donc, quand elle tenait papa ou n'importe qui d'autre, ben, c'était par la main. Et donc, moi, je disais « Maman, tu me tiens par la manche. » Ok, d'accord. C'est un enfant, pour lui, tout est normal.
Mmh.
C'est-à-dire que pour lui, voilà, bon, bah, je tiens un tel par la main et une telle par la manche. C'est comme ça.
Mmh.
Si on dit de le faire, je le fais. Hein, mais le mécanisme reste mal. Alors maintenant, elle a 3 ans, bientôt 3 ans et demi. Bon, elle a compris l'entourloupe qu'en fait, elle pouvait très bien me lâcher.
Mais alors, comment tu fais dans ces cas-là ?
Non, c'est l'éducation. Là, dans ce cas-là, c'est vraiment l'éducation. C'est-à-dire, là, je m'affirme comme la figure d'autorité, la maman. Et non, là, c'est non, tu te mets en danger. Donc là, je lui ai expliqué déjà plusieurs fois que lorsque nous sommes dehors, il y a un danger, il y a les voitures, c'est dangereux, elle peut tomber, elle peut se faire très mal, etc. Et que si elle veut regarder quelque chose ou si elle doit me demander. Donc là, c'est effectivement juste une question d'éducation. Mais c'est comme quand on va dans un magasin et que... Bah, l'enfant veut toucher à tout, veut mettre tout dans le caddie. Bah, non, c'est non. Donc, oui, c'est une question d'éducation. Là, il n'y a plus la force physique. Il n'y a pas cette force physique de l'enfant qu'on empoigne et qu'on dit non, tu ne peux pas et qu'on tire. Non, là, c'est déjà pas possible physiquement. Et donc, je mets le paquet sur la parole.
Ouais.
Et on parle énormément avec lui. C'est quelque chose, j'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé avec elle depuis ses premiers jours, en fait, et encore aujourd'hui. Voilà, il y a un échange, donc là, elle me répond.
Oui.
Mais on parle beaucoup, je lui explique énormément. Mon handicap n'est pas un tabou, donc moi, je parle de mon handicap ouvertement, et même avec Lydia, je lui explique. Je lui explique. Mais pour elle, c'est entre guillemets, c'est comme ça, c'est normal. Je sais que mes frères aussi, pour eux, c'était normal.
Ouais, oui.
Et vu qu'ils ont grandi avec moi, il y a des gens qui ont des bras, il y a des gens qui n'ont pas de bras.
Qu'est-ce qu'elle te pose comme question, ta fille, par exemple ?
Elle ne pose pas trop de questions, parce que je crois que 3 ans, c'est encore assez jeune. Je pense que les questions vont arriver entre 5 et 6 ans. Parce que même j'ai ma nièce qui a 4 ans et demi qui pose pas encore trop de questions. Pour eux, pour l'instant, c'est tout à fait normal.
Ouais.
C'est comme ça. Viendra le temps des questions, là, on verra.
Comme tu dis, c'est plutôt les autres qui vont poser des questions et faire que ta fille va peut-être se poser des questions après.
Peut-être aussi. Mais c'est vrai que là, par exemple, quand je vais la chercher à l'école, les autres enfants ont 3 ans, donc ont le même âge qu'elle. Limite, je pense qu'aussi, ils ne se rendent pas encore très bien compte, en fait, de l'autre. Ils sont plus dans leur monde à eux. C'est-à-dire, maman va venir me chercher. C'est la seule chose qu'ils regardent, en fait. Hein, quand les enfants sont là dans la classe et que chaque parent vient chercher son enfant, en fait, l'univers de l'enfant se résume à sa maman. Donc 3 ans, c'est encore tôt. Je pense que les questions arriveront et puis on verra.
Toi, tu en as parlé à la maîtresse, au maître d'école.
Quand je l'ai inscrite à l'école, oui, j'en ai parlé au directeur. Et le directeur m'a dit, oui, ok, bon, bah, voilà, vous savez pas quoi. Okay, d'accord, merci, au revoir, quoi. Non, il n'avait pas du tout. Il a pris de manière complètement anecdotique. C'était une anecdote pour lui. Et il m'a dit, je préviendrai juste la maîtresse. Et si elle a des questions ou si elle viendra vers vous. Et puis la maîtresse, premier jour d'école, bonjour, bienvenue, Lydia. Merci, madame, au revoir. Ouais. Ouais. Ok, tout le plaisir pour moi.
Hein. Voilà. Tant mieux.
Tant mieux, non, mais vraiment tant mieux, quoi. Et puis à chaque fois que je vais chercher Lilia, Lilia, on t'a vu sur YouTube.
Ouais, mais oui.
Oui, parce que comme je suis sur YouTube, donc ça aide aussi énormément.
Comment est venu ce désir de se mettre sur YouTube alors? C'est pas
en fait, quoi. À la base, moi, je mettais des vidéos de peinture. Parce que je suis passionnée par la peinture, je suis artiste peintre, donc je pratiquais ma passion, en fait. Et puis, j'ai eu des questions. Tiens, comment tu fais ça? Comment tu fais ci? Pourquoi tu fais ça comme ça? Pourquoi tu fais ça comme ci? Et quand je répondais, les gens ne me croyaient pas ou les commentaires, c'était un peu compliqué à comprendre. Donc, je me suis dit, attendez, je vais faire une vidéo, ce sera plus facile à comprendre. Et en fait, là, j'en suis à la 100e vidéo. Là. C'était pas un projet du genre si ce matin je créais une chaîne YouTube, non, pas du tout. C'est aussi partager ma passion, et puis cette passion aujourd'hui est devenue partager un quotidien qu'une passion.
Et alors, qu'est-ce qu'ils te disent les gens
Sur internet, il y a vraiment de tout. Hein. Sur internet, il y a tout. Les gens sont aussi bien étonnés, ils sont aussi bien admiratifs, ils sont aussi bien. Et le, enfin, il y a vraiment de tout. Il y a de tout sur Internet, donc les réactions sont très diverses. Mais on va dire majoritairement, les gens sont très bienveillants. Sur Instagram notamment, c'est une communauté incroyable.
Ouais. Est-ce que tu as des peurs pour ta fille plus tard vis-à-vis de ton handicap, qu'elle puisse...
J'ai des peurs comme tous les parents vis-à-vis de leurs enfants. Sur l'avenir, j'espère qu'elle sera heureuse et qu'elle aura tout ce qu'on met. Mon handicap m'appartient, en fait. Il n'appartient à personne d'autre. Et j'en fais mon affaire. C'est entre lui et moi, j'ai envie de dire. Il n'y a personne qui est concerné par mon handicap, directement.
Ouais.
Ça me concerne et c'est quelque chose que personne ne pourrait le porter à ma place et personne ne... Je ne m'inquiète pour personne, en fait.
Oui, mais comme tu dis que, justement, pour les enfants, tout est normal et c'est en grandissant, ou en tout cas, c'est avec les regards d'adultes que les choses changent.
Oui. C'est-à-dire, ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui ne connaissent pas. Un adulte qui n'a jamais vu ça, oui, il doit trouver ça incroyable. Mais un enfant qui a grandi avec ça trouvera ça normal. Moi, je prends souvent l'exemple de mes frères, en fait. Qui trouvent ça tout à fait normal et qui eux-mêmes, lorsqu'on leur posait des questions, ne comprenaient pas.
Ouais.
Et ce qui est très drôle aussi, c'est qu'ils sont très sensibilisés sur mon handicap, mais pas sur les autres types de handicap. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas spécialistes du handicap.
Oui, bien sûr.
Donc, ça leur arrivait, quand ils étaient eux-mêmes enfants, de voir, par exemple, une autre personne avec un autre handicap et dire « Oh, mais regarde, pourquoi ?» etc., etc. Alors qu'eux-mêmes grandissaient avec une sœur très différente. Mais ils ne faisaient pas le parallélisme. C'est-à-dire, pour eux, c'était Sarah était comme ça, mais ça ne veut pas dire que voilà, ils ont une sensibilité pour le handicap. Maintenant ils sont devenus adultes, oui, ils sont plus ouverts et beaucoup plus... ils trouvent ça normal, etc. Mais il faut aussi écouter l'enfant et il faut aussi être ouvert parce que je ne veux pas faire de Lilia une spécialiste du handicap. Mmh. C'est un enfant, elle aura des questions. On a déjà vu des personnes différentes et de tout, hein, de tout, parce qu'un enfant, il découvre, tout est nouveau pour lui. Donc pourquoi ça, pourquoi si, pourquoi cette personne est grande, pourquoi cette personne est petite, pourquoi cette personne est de telle couleur, pourquoi cette personne porte tel vêtement, c'est de tout en fait. C'est... Donc, ben oui, on explique et on dit, ben oui, c'est comme ça, les gens sont différents et chacun est différent.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
Je crois que le don de soi, c'est ce qui change. Hein. C'est tout d'un coup, on n'est plus notre centre du monde. Tout d'un coup, on est vraiment vers quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Et donner de l'amour sans rien attendre, je pense que c'est vraiment la parentalité. C'est-à-dire, on est souvent dans le don de soi, mais en échange, on attend quand même aussi de recevoir quelque chose. Et en fait, quand on est parent, ça n'existe plus. C'est-à-dire, on donne sans rien attendre. Et moi, c'est ce qui a changé dans ma vie. C'est vraiment cette relation d'amour pur. De plus dire, oui, je t'aime, mais toi aussi, tu dois m'aimer. Toi aussi, tu dois me donner du temps. Toi aussi, tu dois... Parce que c'est ça, en fait. Hein. Quand on est dans une relation... d'adulte, on attend quand même. On a beau dire l'amour, c'est sans retour, c'est pas vrai. On attend toujours un retour. Mais la parentalité, tout d'un coup, ça prend son sens. Hein, quand vous avez un tout petit bout de chou qui est là et vous l'aimez, mais lui, il est là, mais il attend. Enfin, il ne vous donne rien, quoi. C'est incroyable. C'est une expérience assez incroyable. C'est fascinante. Comment est-ce qu'on peut aimer aussi à ce point ? C'est fou. Enfin, comment on peut aimer un tout petit être humain qui vient d'arriver et tout d'un coup, c'est le centre de notre vie et on n'attend rien de lui. C'est le don de soi. Moi, c'est ce qui a changé pour moi dans ma vie d'amour, avant d'être maman.
T'envisages d'agrandir la famille ou pas du tout ?
Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Oui. C'est quoi pour toi être une maman belge ?
Pour moi, être une maman belge, c'est aller au musée des Schtroumpfs et faire du chocolat.
Justement, quel est ton endroit kids-friendly préféré ?
On aime beaucoup aller au parc. On aime beaucoup, parce qu'il y a énormément d'activités pour les enfants, les week-ends, etc. Donc ça, c'est vraiment chouette. Après, je trouve que Bruxelles est quand même assez kids-friendly. Il y a souvent des cafés poussettes, donc on peut aller prendre un verre avec des poussettes, et c'est vraiment adapté. C'est vraiment une ville familiale, ouais. Bruxelles.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille ?
Alors rien que pour moi, c'est la préparation de mes expositions. Et en famille, c'est tous les jours. C'est tous les jours, oui. C'est bon, ben là, il y a les vacances de carnaval qui arrivent à grands pas. Mais c'est vrai que voilà, aménager les vacances, parce que c'est la première année où Lilia est scolarisée, donc pour moi c'est aussi tout à fait nouveau d'avoir des vacances scolaires, d'adapter tout son emploi du temps par rapport à ça.
Merci beaucoup Sarah.
Merci à toi.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité la vraie.